On va continuer dans l'étude du livre de l'Ecclésiaste. Si vous voulez vous tourner avec moi au chapitre 9 aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur, on te remercie pour ta parole, Seigneur. Elle est la vérité, sur elle, comme dit le cantique, on peut fonder notre vie, Seigneur. Merci de ce que c'est ton Esprit Saint qui l'a inspiré à des auteurs humains, Seigneur, et que ce même Esprit Saint est là aujourd'hui pour nous aider à la comprendre et à la rendre vivante, Seigneur. Seigneur, on sait que toute la parole parle de toi, et même lorsque, comme dans ces passages, on est un peu décontenancé parce que on semble entendre les propos, la philosophie de vie d'une personne qui te met de côté, qui ne te met pas sur le trône de sa vie, Seigneur, on sait qu'en fait c'est pour mieux nous montrer que la vie sous le soleil, c'est-à-dire sans égard à toi, elle ne vaut pas la peine d'être vécue, mais c'est la direction dans laquelle ce livre nous entraîne, c'est de voir par comparaison, Seigneur, lorsque tu es sur le trône de nos vies, la vie devient passionnante. La vie est merveilleuse, Seigneur, même si elle n'est pas sans difficulté, elle est pleine de sens, elle est pleine de potentiel, de joie, d'accomplissement. Seigneur, lorsque nous te laissons le contrôle de nos vies, Seigneur, tu en fais des œuvres d'art, Seigneur, des poèmes, comme tu le dis dans Éphésiens, Seigneur. Et on te remet ce temps. Merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Merci pour ta grâce, comme nous l'avons chanté. Elle qui nous permet de nous approcher de ton trône de grâce sans avoir peur d'être instantanément détruit, instantanément zappé, en raison du contraste entre ta sainteté et nos péchés, Seigneur. Merci parce que ton Fils Jésus-Christ est mort sur la croix afin de nous ouvrir ce chemin, qu'il nous permet d'apparaître en ta présence comme vêtus de sa justice, Seigneur. On ne comprend pas ces choses, Seigneur. On est simplement encouragé à les vivre, à en faire l'expérience, Seigneur. Je prie vraiment aussi pour toutes les autres églises de cette ville, que tu les bénisses par ta présence manifeste, que tu encourages ceux qui sont découragés, que tu fortifies ceux qui sont affaiblis par la maladie ou par les circonstances de la vie, et que tu remplisses ton corps, cette église à Nice, Seigneur, de toi, pour qu'il puisse y avoir un vrai témoignage, un témoignage qui donne envie aux autres de te connaître. On te remet toutes ces choses dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Vous avez entendu parler déjà des ismes, toutes les théories. En français, ça se termine par isme, en anglais par ism. C'est des approches de la vie, des approches auxquelles nous devons faire face dans la vie. Et un auteur disait qu'en fait, il y a quatre grandes philosophies de vie dans les idées de notre époque. La première, c'est le matérialisme. Ce qui compte, c'est d'accumuler des possessions parce que, d'après cette vision des choses, le matérialisme, ces possessions amènent le bonheur, la joie, la satisfaction profonde. Et donc, la conséquence, c'est cette philosophie de vie nous dit de faire tous nos efforts pour accumuler des biens, On dit qu'à la fin, celui qui a le plus accumulé le plus de biens gagne. On ne sait pas trop ce qu'il gagne, mais c'est cette vision des choses. Cette vision des choses, c'est drôle parce que on est, pour la plupart, on a tous des Bibles, mais si on distribue des Bibles dans les boîtes aux lettres, les gens réagissent et ne sont pas heureux. Mais en même temps, cette philosophie de vie, le matérialisme, elle a ces Bibles qui sont distribuées dans vos boîtes toutes les semaines. Il n'y en a pas qu'une, et si vous avez un bureau, ici on en reçoit à l'étage, on en reçoit dans la boîte aux lettres ici, on en reçoit chez nous, et c'est les publicités de Carrefour, de U. Il vous a bien eu, en vous faisant croire que ça allait vous procurer le bonheur. Et c'est vrai qu'on est tous tentés de jeter un œil et de se dire, c'est vrai, ce nouvel iPhone, waouh, ça a l'air vraiment bien. En fonction de la pression qu'on mettra sur l'écran, on aura une dissertation profonde ou juste une petite rappel de certains articles ou certaines choses. Et on est tous tentés des fois de trouver un peu de réconfort, un peu de bonheur dans les choses qu'on peut acheter, dans les choses qu'on peut acquérir. Une deuxième philosophie de vie courante, c'est ce qu'on appelle des fois l'hédonisme, c'est la recherche du plaisir, c'est aussi l'épicurisme. Il y a un restaurant à Nice qui s'appelle Les Épicuriens. On nous avait, pour notre anniversaire de mariage il y a quelques années, des personnes dans l'église nous avaient offert un repas chez Épicure, chez les Épicuriens. Et c'était certes un bon repas, mais ce n'est pas ce qui nous a comblés pour le restant de nos jours. L'idée, c'est que la vie est une fête, il faut faire la fête. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? Et donc l'idée, c'est profite bien de la vie, vas-y, amuse-toi et va d'un plaisir à l'autre. Si tu ne sais pas quoi faire, va au Club Med, ils ont travaillé là-dessus, ils vont te donner le bonheur. Une autre philosophie de vie, c'est l'humanisme. L'être humain et tout son potentiel. L'humanité est merveilleuse. Il suffit de corriger les problèmes par l'éducation, par l'instruction, par une meilleure répartition des ressources financières, par un bon système politique. L'humanisme, la philosophie nous dit « élève-toi, fais de ton mieux pour t'instruire, pour participer à la vie de la société ». Toutes des bonnes choses, mais c'est l'homme est la limite. L'homme est la limite, et ces gens-là sont les premiers à dire que Dieu n'existe pas et qu'il ne faut surtout pas chercher à le rencontrer ou à trouver un espoir dans Dieu. Ce qui compte, c'est l'humanité, c'est l'homme. C'est une philosophie de vie qui, je me souviens, j'ai grandi dans la période de ce qu'on appelait les Trente Glorieuses, où l'humanité pouvait fonder de grands espoirs sur le progrès économique, sur les biens de consommation qui commençaient à être répandus, les machines à laver, ça apportait le bonheur, les frigos, un beau frigo plein d'aliments en plastique sur les catalogues, c'était quelque chose qui nous faisait saliver. Et il y avait un magazine auquel j'étais abonné qui s'appelait Tout l'univers. Plein de choses intéressantes. Il y avait de l'histoire, de la science. Et c'était quelque chose qui propageait cette idée de l'humanisme. On voyait des professeurs souriants au tableau devant des classes d'écoliers plein de joie, plein de zèle, et ça avait l'air crédible. C'est vrai qu'on pouvait compter sur le progrès humain pour trouver des réponses à la vie. Et là, peut-être la dernière philosophie de vie, une des grandes du moins, c'est ce qu'on appelle le fatalisme. L'idée, c'est que tout est joué d'avance. Ça ne sert à rien de faire des efforts. Les dés sont pipés, sont truqués, on pourrait dire. Et suivant l'endroit, suivant les circonstances dans lesquelles on arrive sur la Terre, dans l'existence, on n'a pas de grandes choses à faire. Si on vient d'un milieu aisé, on sera capable de faire des études, d'avoir aussi un travail et de reproduire. Et ce fatalisme nous conduit à nous dire « résigne-toi ». Notre brave Salomon, je dis brave parce qu'on le connaît depuis quelques semaines, à force de l'entendre nous chercher un sens à la vie, il a une autre façon de voir les choses. Il voit la vie sous le soleil, c'est-à-dire sans Dieu, et puis il va nous parler plus tard à la fin, c'est un peu long pour arriver à cette fin, il va nous parler de la vie au-dessus du soleil, c'est-à-dire une vie qui se tourne vers Dieu, une vie qui fait rentrer Dieu dans l'équation, en quelque sorte, si je peux me permettre cette expression un peu triviale. L'idée, c'est qu'on peut vivre en croyant en Dieu, mais ça ne veut pas dire que Dieu joue un rôle dans notre vie. Il est là, il donne une explication à l'arrivée de la vie, il donne une explication peut-être après la mort, mais je vis comme s'il n'existait pas. Et ça, si on y regarde bien, c'est un danger qui nous guette. On peut venir à l'église tout en pensant que Dieu, c'est pour une heure ou deux par semaine, mais que le reste du temps, il faut se résigner à adopter une de ces philosophies de vie. On peut être un humaniste toute la semaine et un chrétien le dimanche, ce qui veut dire qu'on n'est pas vraiment chrétien, parce que Dieu n'ordonne pas nos pensées, nos espoirs, notre façon de vivre la vie. On a vu, on a déjà parlé de ça, que Salomon, qui avait eu tous les moyens disponibles qui étaient donnés à aucun autre homme, des moyens des ressources financières incroyables. On dit que Bill Gates serait capable, même si Microsoft n'est plus la première entreprise mondiale, on dit qu'il est assez riche parce qu'il a beaucoup d'actions de la compagnie. Il est assez riche pour acheter toutes les maisons de Boston. Boston, c'est pas une petite ville et il y a de superbes maisons. Eh bien, la fortune de l'Ecclésiaste, c'est lui dont on parle, de Salomon, du roi Salomon, elle était encore plus grande que ça. On a déjà vu des passages qui nous racontaient comment il recevait des tribus de tout un tas de pays autour d'Israël. Israël était en paix. Israël était riche. Israël était puissante. Et lui, c'était le roi. Et donc, il a pu expérimenter tout ce qui lui passait par la tête. Aujourd'hui, on se dit, qu'est-ce que ce serait que d'être riche à millions ? Lui, il l'avait été. On a tous des revenus qui varient pas énormément d'une année sur l'autre, j'imagine. Et on est habitué à gérer nos ressources, payer nos impôts, mettre un peu de côté pour des vacances. Et des fois, je me prends à penser, qu'est-ce que ce serait si d'un seul coup, je me retrouvais millionnaire ou milliardaire en centimes ou même en euros ? Comment est-ce que je devrais me mettre à gérer des ressources énormes par rapport à ce dont je dispose ? Et c'est vrai que la première première impression, c'est que ça serait compliqué. Ça serait super stressant. Qu'est-ce que j'en ferais ? Salomon, lui, il avait posé ses questions d'une façon pratique, il l'avait fait pratiquement. Et donc, il a connu la vie dans tous ses aspects. Et à la fin de sa vie, il réfléchit, et c'est ce livre de l'Ecclésiaste. Il cherche un sens à la vie. On peut nous-mêmes nous perdre dans des recherches, on peut tout donner pour l'éducation, pour créer une entreprise, implanter une église même, on peut le faire sous le soleil aussi, implanter une église, c'est-à-dire sans chercher à tout moment la volonté de Dieu. Et il nous livre ses réflexions. Et on va lire ensemble les versets 1 à 11 du chapitre 9. Tout cela, je l'ai pris à cœur et voici ce que j'ai éprouvé. C'est que les justes, les sages et leurs labeurs sont dans la main de Dieu et l'amour aussi bien que la haine. L'homme n'en sait rien, tout peut être envisagé. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui offre un sacrifice, et pour celui qui n'offre point de sacrifice, il en est du bon comme du pécheur, de celui qui prête serment comme de celui qui craint le serment. Voici un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort, et aussi le cœur des humains est rempli de mal, et la démence est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, chez les morts. Votre texte rajoute peut-être « ils vont chez les morts », mais c'est très abrupt dans le langage original. Après tout ça, rendez-vous chez les morts. En effet, verset 4, « celui qui est associé à tous les vivants peut avoir confiance et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. » Et pour eux, il n'y a plus de salaire puisque leur souvenir est oublié. Leur amour, leur haine et leur jalousie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain et bois de bon cœur ton vin, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de la vaine existence que Dieu t'a donnée sous le soleil pendant tous tes jours de vanité. Car c'est ta part dans la vie au milieu de la peine que tu te donnes sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Encore une fois, ce n'est pas très encourageant. Et je vous invite à tenir bon, à tenir le coup, à ne pas vous arrêter à ces conclusions qui, encore une fois, font référence à une vie sous le soleil. Tout cela, je l'ai pris à cœur. Il faisait référence à ces réflexions. On a déjà dit que des choses qui reviennent dans sa vie, c'est des faits, des constats obstinés. Il y a des choses que nous-mêmes, nous voyons dans la vie et des fois on aimerait dire que ce n'est pas le cas, que ce n'est pas la vérité, mais ces faits sont obstinés. On les voit et ils reviennent. Et le lendemain, ils sont encore là. Et en même temps, on a une intuition, une espérance tout aussi obstinée. Vous vous souvenez de Ecclésiaste 3:12, « Dieu a mis dans nos cœurs le sentiment de l'éternité. » Et ça, c'est en conflit avec les faits dont il parle, que la vie est courte, la mort est inévitable. La vie, elle, est imprévisible. Bref, la vie n'est pas juste. Ça, ce sont des faits. La mort est inévitable. Je vous ai déjà partagé que quand j'étais plus jeune, je me disais que, en fait, tant que j'étais pas mort, personne ne pouvait dire que j'allais mourir à 100%. Mathématiquement, c'est vrai. Tant que vous n'êtes pas mort, personne ne peut vous dire que vous allez mourir et que c'est sûr et que à 100%. Sauf que si on regarde les statistiques autour de nous, on s'aperçoit que c'est plutôt du 100% que du 99,99999. Et donc cette mort qui est inévitable, cette vie qui est imprévisible, ça pose question. Et tout ce temps que nous sommes, nous voyons cette collision entre ces réalités qu'on aurait du mal à nier, à contester, et avec cette anticipation qu'il y a quelque chose de bien à la fin. Il y a une justice finale, il y a une éternité. Dieu a mis ce sentiment dans nos cœurs. Et Salomon, c'est un peu, il se laisse être le jouet de ces oppositions. D'une part, la vie est stupide, on pourrait le mettre comme ça, on pourrait le dire comme ça. Et d'un autre côté, la vie est belle, la vie a une dimension éternelle qui la rend merveilleuse et digne d'être vécue. Il dit que les justes, les sages et leurs labeurs sont dans la main de Dieu. Là, il évoque ce Dieu qui existe, il en est convaincu, mais pour l'instant, il regarde comme quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne vit pas pour Dieu, le ferait. Et il constate que c'est Dieu qui décide des choses. Que ce soit les gens bien, les justes, les sages, ce qu'ils font, leur labeur, tout ça, en fait, c'est dans la main de Dieu. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez être prospère, que vous allez avoir la prospérité. C'est le problème que nous avons avec cette doctrine qui dit que si nous croyons en Dieu, il est obligé de nous bénir, de nous donner la santé. Non, Dieu est souverain, il décide des choses. Et quand il dit l'amour aussi bien que la haine, je pense qu'il s'agit de... C'est Dieu qui décide si les circonstances sont favorables ou défavorables, ou mauvaises. L'homme n'en sait rien. Tout peut être envisagé. On aimerait être sûr des choses. Mais force est de constater que ici-bas, sous le soleil, on n'est jamais sûr de rien. Quand on voit les éléments de la nature se déchaîner, on se dit qu'en fait, on est peu de choses. Il suffirait d'une petite secousse, d'un tremblement de terre, et on serait tous ratatinés en une fraction de seconde. Ça me rappelle d'ailleurs ce terrible cataclysme qui est survenu au Népal. Mon beau-frère Mike, qui sera là pour la retraite, était sur place. Je tiens aussi à vous signaler qu'on avait fait des collectes, on a pu envoyer 200 euros à quelqu'un qui travaille sur place. On est sûr que ça va être bien utilisé. C'est pas beaucoup, mais c'est un petit geste. On n'est sûr de rien. On peut se retrouver malade, on peut se tomber dans un accident. Au verset 2, il voit 5 contrastes. Il dit le même sort, celui de la mort qui est inévitable, il frappe les uns et les autres. Et il regarde 5 contrastes. Il voit le juste et le méchant, celui qui veut faire le bien et celui qui prend plaisir à faire le mal. même sort. Celui qui est bon et pur, et puis celui qui est impur, même tarif à la fin, on meurt. Celui qui offre un sacrifice, celui qui n'offre point de sacrifice, celui qui est actif dans sa voie, qui s'investit spirituellement, ou celui qui ne s'en moque comme de sa première chemise ou de l'an 40, suivant les expressions, même arrivé. Du bon comme du pécheur. Mère Teresa, elle meurt comme Hitler. Celui qui prête serment comme celui qui craint le serment. Alors on sait qu'on doit, dans le Nouveau Testament, il est dit qu'on ne doit pas prêter serment, que notre oui soit oui et notre non, non. Et tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Mais là, il est plutôt question du serment qui consiste à obéir à ses engagements. Mais que l'on soit un homme de parole ou pas, c'est comme ça que je comprends cette expression. Tout arrive également à tous, on meurt tous. C'est qu'il y a pour tous, verset 3, un même sort. Et ça, c'est quelque chose, il trouve que c'est un mal qui se fait sous le soleil. Cette destination commune, quoi qu'on fasse, il trouve que c'est pas juste, c'est un mal. Et puis il a une constatation qui est reprise dans le Nouveau Testament, notamment par Paul, il n'y en a pas un qui fait le bien, le cœur des humains est rempli de mal. Il y a même de la folie, de la démence dans notre cœur. Ce n'est pas très encourageant, mais quelque part, si on est honnête avec soi-même, on voit qu'on est capable de bien, certes, mais on est aussi capable de mal. On est capable de fermer notre cœur, on est capable de mentir, d'avoir des tas de péchés habituels dans nos vies. Et puis, si on y regarde bien, on n'est pas très, très malin, on est tous affectés par un grain de folie. On a tous des jugements auxquels on croit, mais qui en fait, si on les regarde objectivement, ne sont pas justes. On est tous un peu dingue quelque part. Et puis il revient, après quoi ils vont chez les morts. Même destination. Et là, il a cette réflexion qu'on traduit aujourd'hui par « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Celui qui est associé aux vivants, à tous les vivants, peut avoir confiance. Et puis, il a cette expression forte « même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort ». C'est encore une fois une vision sous le soleil, une vision qui s'arrête à la tombe. Et c'est vrai que si tout s'arrête à la tombe, une fois qu'on est mort, on n'a plus de communication ou d'influence sur le monde réel, sur ce qui se passe. Quand j'étais plus jeune, je me disais ça doit être terrible de mourir parce que d'un seul coup, on est coupé des informations. J'étais jeune et en bonne santé, je me disais waouh, d'un seul coup, on ne sait plus ce qui va se passer, qui va gagner la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde de foot. Ça doit être terrible, ça. Cette idée que tant qu'il y a de la vie, on peut espérer que les choses vont s'améliorer. Tant qu'il y a de la vie, on est encore capable d'influencer le monde autour de nous. On est encore capable d'être une source d'encouragement pour les gens qui nous côtoient, pour nos familles, pour nos amis, pour nos voisins. Et puis la mort enlève cette possibilité d'une façon irréversible sous le soleil. Il y avait un écrivain français, maintenant son Jean Bosco, je crois, qui avait dit, qui était prêt pendant la Deuxième Guerre mondiale, il disait, vaut mieux vivre sous le joug de l'ennemi. Il était prêt, il était de ceux qui prenaient la collaboration. Il vaut mieux vivre à genoux vivant que d'être un héros mort. Et c'est un peu ce que dit Salomon, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il faut savoir que chez les Hébreux, les chiens, ce n'étaient pas des gentils petits toutous, des gentilles petites léicas, mignons tout plein. Les chiens, c'était un animal qui vivait en bande, comme au Népal aujourd'hui encore, dont on avait peur. Il rôdait, il pouvait déchirer des hommes isolés, les manger. Et le chien était quelque chose de méprisé. C'était pas un animal qu'on estimait beaucoup. Par comparaison, le lion, c'était là aussi le roi des animaux. C'était un animal puissant qui n'avait pratiquement pas d'ennemis, si ce n'est l'homme. Et à l'époque, il y avait encore des lions qui vivaient en Israël. Et donc, c'est vrai qu'aussi vénéré qu'on ait pu être un lion, une fois qu'il était mort, que sa carcasse gisait par terre et qu'il était mangé par les charognards et par les autres animaux, il avait perdu de sa superbe. Et Salomon est le premier à dire, il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Et puis il essaye de raisonner, les vivants en effet savent qu'ils mourront. Par contre, les morts, ils ne savent rien. Ils sont morts, encore une fois, sous le soleil. Et pour eux, il va plus loin, il n'y a même plus de salaire, de récompense, parce que très vite, leur souvenir est oublié. C'est souvent la situation, on entend les hommes politiques, les présidents de la République, penser à ce que l'histoire va retenir de leur mandat. Généralement, c'est parce qu'il est trop tard pour qu'ils fassent quelque chose de vraiment important. Mais ils ont toujours ce souci qu'on se souvienne d'eux. Les écrivains, les artistes aiment bien laisser quelque chose derrière eux le désir, c'est qu'au moins, si on est mort, que notre souvenir vive encore le plus longtemps possible. Si on est un grand artiste, un grand politique, un grand roi, on parle encore de nous 300 ans, 400 ans, mais très rapidement, finalement, au bout du compte, on nous oublie. Et si on vit, au moins on sait qu'on va mourir. Mais si on est déjà mort, on ne sait même pas qu'on a vécu. C'est le raisonnement auquel il se livre. Et ça, encore une fois, il faut se replacer dans le contexte de l'Ancien Testament, plutôt. On sait que dans le Nouveau Testament, on a des révélations supplémentaires qui nous montrent qu'il y a un séjour des morts, que mourir, c'est être avec le Seigneur aussitôt. Et donc, la mort n'est pas vue de la même façon. Mais pour lui, se basant sur cette vision sous le soleil, c'est terrible. Verset 6, leur amour, leur haine et leur jalousie ont déjà péri. Toutes les émotions qui nous agitent, et Dieu sait si on est agité par nos émotions, nos colères, nos joies, nos paix, nos aspirations, nos déceptions, tout ce qui occupe nos pensées, nos émotions, tout ça, ce sera calme plat. On voit sur les oscilloscopes dans les hôpitaux, lorsqu'on teste les ondes du cerveau, on voit que la personne est vivante et puis d'un seul coup, c'est plat. On dit qu'il y a la mort est associée à l'absence de réaction physique, physiologique. Tout ça, ça sera fini et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Alors c'est vrai que les exceptions, c'est quand on a inspiré des doctrines qui perdurent, comme le marxisme ou d'autres doctrines qui peuvent continuer à influencer les gens pendant un temps, mais ça disparaît aussi. Ça, c'est des énigmes de la vie. Et le point qu'il fait ici, quelque part, à partir du verset 7, c'est que on n'a pas besoin d'avoir résolu ces grandes énigmes de la vie pour apprécier la vie sous le soleil. Et ça rejoint, en fait, c'est pas complètement impie, c'est pas complètement en dehors de la volonté de Dieu. Le Nouveau Testament aussi nous invite à nous contenter de notre sort. Et là, il dit, va, mange avec joie ton pain. Il va montrer quelques éléments qui nous permettent de vivre la vie sans se prendre la tête, comme on dirait. Le manger et le boire. Va, mange avec joie ton pain et bois de bon cœur ton vin. Car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Ça, c'est pas très clair pour beaucoup de commentateurs. Certains pensent que le fait que Dieu t'ait donné des récoltes, de quoi manger, ça veut dire qu'il a déjà béni, il a déjà agréé ton travail. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'huile et les vêtements blancs, alors certains voient des allusions spirituelles à la présence de l'Esprit Saint, à la pureté de Christ que nous revêtons. Mais je crois que là, il est sous le soleil, il parle de façon assez... Je crois qu'il faut prendre ça au premier degré. Les vêtements blancs, c'était des vêtements de fête. L'huile qui ne manque pas sur la tête, c'était aussi une façon de s'apprêter pour les fêtes. On n'avait pas d'eau de Cologne, mais on mettait de l'huile, souvent parfumée. Et donc, c'était une façon de dire qu'on allait faire la fête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours. Et puis là, bof, il retombe, il rechute de ta vaine existence que Dieu t'a donnée sous le soleil pendant les jours de ta futilité, de ta vanité, de ton... Car c'est ta part dans la vie au milieu de la peine que tu te donnes sous le soleil. C'est intéressant, il se dit que, et il rejoint là aussi des prescriptions qui sont faites plus tard dans le Nouveau Testament, où on peut profiter de la vie, même si a priori la vie n'a pas de sens, qu'elle est injuste. Un mariage, le fait de vivre avec une femme, d'avoir un compagnon, de l'amour, c'est rafraîchissant et c'est une bonne chose. Jacques nous dit que toutes bonnes choses viennent du Seigneur, viennent de Dieu, du Père des Lumières en qui il n'y a ni ombre, ni variation, ni changement. Dieu nous donne de bonnes choses. Une autre raison d'apprécier la vie, c'est de travailler dur et de voir des résultats à notre travail, à notre labeur. Il y a du plaisir à travailler dur. Est-ce que tout le monde ici, je ne vais pas nous faire de sondage, mais j'espère que vous connaissez tous la joie d'un travail dur, bien fait, qui donne des résultats. Parce que c'est une grande joie de l'existence. Penser qu'on est assisté, qu'on doit toujours recevoir du gouvernement les congés, qu'on doit travailler le moins possible... C'est pas conforme à la vérité biblique. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Parce qu'après, il n'y aura plus aucune possibilité de faire des choses qui comptent, des choses dans lesquelles on s'investit et on a de la joie à s'investir. Paul l'écrit aux Colossiens, tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, de tout votre cœur, de toute votre volonté, comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes. Si vous faites quelque chose, donnez-y vous. Faites-le avec toute votre énergie. Parce que faire les choses à moitié, c'est pas satisfaisant pour l'homme et ça donne pas de résultats impressionnants, ça ne produit rien. Une autre chose qu'il voit de futile et qui parle de que on va lire les versets 11 à la fin, 18. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas au plus agile, ni la guerre au plus vaillant, ni le pain au plus sage, ni la richesse au plus intelligent, ni la faveur au plus savant, car les circonstances bonnes ou mauvaises surviennent pour eux tous. L'homme ne connaît pas non plus son heure que les poissons qui sont pris au filet néfaste, pas plus que les oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les humains sont enlacés à leur néfaste qui s'abat sur eux tout à coup. J'ai vu aussi sous le soleil cet exemple de sagesse qui m'a paru remarquable. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et construisit contre elle de vastes retranchements. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui aurait pu délivrer la ville par sa sagesse, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. J'ai dit, la sagesse vaut mieux que la vaillance. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont point écoutées. Les paroles des sages écoutées dans le calme valent mieux que le cri de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les armes de combat, mais un seul pécheur anéantit beaucoup de biens. Dans ce passage, il nous dit que nos capacités ou les opportunités que nous avons ne garantissent pas le succès de nos entreprises. Une chose qui l'a frappé, c'est qu'on serait en droit de penser que c'est celui qui est le plus en forme physiquement qui va gagner la course. C'est celui qui est le plus courageux, le plus vaillant qui va gagner la guerre. Que c'est celui qui est le plus sensé, qui réfléchit le plus, qui prend des bonnes décisions, qui va avoir des ressources, qui va avoir de la nourriture, du pain. Que ce sont les gens les plus intelligents qui vont savoir comment jouer avec la bourse, investir à bon escient, faire des affaires. Ils vont être riches, c'est ce qu'on pense. Que ce n'est pas ceux qui ont le plus de connaissances qui vont obtenir la faveur des gens responsables de la société. Et ça, il dit, on s'attendrait à ça, mais ce n'est pas ce qui se passe quand on regarde sous le soleil, encore une fois. La course n'est pas au plus agile, la guerre n'est pas au plus vaillant, le pain n'est pas au plus sage, la richesse n'est pas au plus intelligent, la faveur n'est pas au plus savant, parce qu'il y a des circonstances, bonnes ou mauvaises, qui nous tombent dessus. C'est intéressant, il y avait ce livre d'un dénommé Malcolm Gladwell, qui s'appelle Outliers, qui décrit en fait le fait que quand on regarde la société, les sportifs les plus célèbres ou les sportifs qui réussissent le mieux sont des gens qui sont nés au début de l'année, en janvier ou février. Et que les gens qui réussissent le mieux leurs études aussi, ce sont des gens qui sont nés entre le mois de janvier et le mois de mars. Désolé si vous n'êtes pas né, moi ça tombe bien, je suis né le 1er février. Non. Mais l'idée, c'est qu'en fait, ce qu'on croit pour être des capacités intrinsèques d'un grand athlète, c'est le jouet des circonstances. Si vous êtes né en début d'année, janvier-février, vous êtes à l'école, vous allez être plus fort que vos petits copains qui vont être nés à la rentrée suivante, en septembre. Vous aurez déjà quelques mois de plus physiquement et mentalement. Donc les profs, les coachs vont s'intéresser davantage à vous parce que vous êtes plus fort que ces petits derniers. Vous êtes plus rapide à comprendre les choses que ces petits derniers et on va investir davantage. Alors ça paraît être une théorie un peu fofolle, mais il présente les arguments avec des statistiques impressionnantes et force est de constater que même les grands génies de l'informatique, les Bill Gates, les Steve Jobs, ils sont tombés au bon moment, au bon endroit. Ils étaient étudiants quand les progrès de l'informatique ont permis de développer des appareils. Ils ont pu passer des heures, parce qu'ils n'avaient pas de famille, ils ont pu passer des heures à programmer ces machines et à développer leur capacité. Et en fait, c'est ce que dit la parole. Il y a des circonstances bonnes ou mauvaises qui vous tombent dessus. Et il est toujours obsédé par l'idée de la mort. On ne sait pas quand est-ce qu'on va, ça va nous tomber dessus. Pas plus que les poissons qui sont pris au filet, les oiseaux qui sont pris au piège. Il y a les petits poissons, là, ils sont là tranquillement en train de nager, et puis pof ! Il y a un très bon sketch que je vous encourage à écouter par Gad Elmaleh, qui est absolument très très drôle, où il parle d'un petit poisson qui s'est fait déglinguer la gueule. Mais là aussi, c'est la surprise totale. Il pensait faire un repas et pof, il se retrouve attaché à un hameçon et sorti de l'eau à grande vitesse. Les oiseaux, c'est pareil. L'heure néfaste, elle s'abat sur nous tout à coup. Alors c'est vrai, on peut mourir d'une longue maladie, mais la chose que les gens nous disent, ben, je ne m'attendais pas à ce qu'il meure la semaine dernière, il avait l'air de... On est toujours surpris par la mort. Nos capacités, elles ne justifient pas notre succès. Et puis, il a cet exemple, il parle de l'opposition d'un roi puissant qui voulait attaquer une petite ville, ou qui attaquait une petite ville, et qui l'a investi, qui a construit, qui l'a assiégé. Il s'y trouvait un homme pauvre qui aurait pu délivrer la ville, ou certains passages disent qu'il avait délivré la ville. Mais le résultat, c'est que personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. On peut prendre si on dit que la ville n'a pas été délivrée par lui, c'est qu'en fait, ce sage, cet homme qui avait de la sagesse, aurait pu le faire, mais personne n'a pensé à lui, parce qu'on ne prête pas beaucoup de poids. On ne prête pas beaucoup d'attention à la sagesse. On est plus impressionné par la force physique, par les résultats des élections, par... On penserait que la sagesse impressionnerait, mais la sagesse n'impressionne pas. Le propre de la sagesse, c'est de ne pas s'enorgueillir. Les gens les plus sages sont souvent les gens les plus modestes. Et parce qu'ils savent tout ce qu'ils ne savent pas encore. Donc ils n'ont pas tendance à s'enorgueillir de leur connaissance. Par contre, ceux qui savent peu le montrent leur connaissance. On a dit que la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Si on n'est pas très cultivé, on fait savoir aux gens tout ce qu'on sait, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de toute façon. Mais le roi puissant, c'est lui qui investit, et soit il aurait pu avoir l'opposition de cet homme sage, mais personne ne s'est souvenu de lui, soit certains autres passages traduisent qu'à cet homme sage avait délivré la ville, mais personne ne s'est souvenu de lui par la suite. Tout ça pour dire que la sagesse n'est pas appréciée à sa juste valeur. J'ai dit, verset 16, la sagesse vaut mieux que la force, que la vaillance, que la puissance militaire. Mais on ne prête pas attention à cette sagesse. L'homme qui est sage, généralement, il n'a pas usé de cette sagesse pour devenir riche. Il est pauvre, il est méprisé, ses paroles ne sont point écoutées. Souvent, on pense que une démocratie participative serait plus efficace qu'une démocratie élective où on donne des moyens pour faire des campagnes. Quand on fait une campagne, on va décider de choses, on va promettre des choses, on va dire des choses qui ne sont pas sages. On peut penser que si on pouvait tous voter directement, par référendum, on aurait peut-être un meilleur système, c'est pas sûr. Les paroles des sages écoutées dans le calme valent mieux que le cri de celui qui domine parmi les insensés. C'est quelque chose qu'on peut tous admettre, mais on a tendance à aller vers celui qui crie fort, le plus fort, à celui qui domine parmi les insensés. Donc il fait partie de ces insensés. Parce qu'en fait, il dit, la sagesse, elle vaut mieux que les armes de combat. Mais un seul pécheur anéantit beaucoup de bien. Il est toujours à se poser des questions insolubles sous le soleil, parce qu'il sait, il comprend que c'est plus important d'être sage que d'être fort, que la sagesse, c'est mieux que le combat, que les armes. Et pourtant, un seul pécheur, il fait appel ou il fait référence à celui qui utilise les armes. Il anéantit beaucoup de bien. Il fait un pécheur qui utilise la force fait beaucoup de mal. C'est ce que nous enseigne l'histoire. La sagesse a toujours du mal contre la violence. La sagesse a du mal à se faire entendre. Et ça, encore une fois, et je le répète pour la dernière fois aujourd'hui, c'est la vision que l'on a lorsqu'on ne fait pas référence à Dieu, qu'on ne fait pas référence aux armes spirituelles que Dieu nous donne. La prière est toute puissante. La prière est plus forte que la bombe atomique. La prière est plus forte que toutes les armes de combat. Même si, ici-bas, lorsque les choses sont dites, on peut se retrouver à faire l'expérience de la vie injuste, de la mort inévitable, on a d'autres armes, des armes spirituelles dont parle Paul, les armes du chrétien, les armes qui permettent de mener un combat pour l'éternité. C'est important de ne pas se laisser accabler par cette vision pessimiste des choses. Mais c'est bien aussi de réfléchir un peu à cette vision, parce que c'est la vision des gens qui vous entourent. Qu'ils soient épicuriens, hédonistes, matérialistes, fatalistes ou jansénistes, j'en sais plus rien. C'est la vision des choses. Et lorsque vous parlez avec eux, vous pouvez dire « Oui, c'est vrai, je suis bien d'accord avec toi. S'il n'y avait que ça, à quoi bon vivre ?» À À quoi bon naître pour se retrouver dans une famille où votre papa, parce qu'il est excédé, vous met dans une machine à laver et vous tue de la sorte? La vie n'a aucun sens. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a une réalité spirituelle, il y a un Dieu qui vous aime, il y a un Dieu qui donne à votre vie un sens. Et la vie est belle. La vita est bella. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces pensées qui nous sont transmises par ton Esprit Saint pour nous rappeler que si nous ne te connaissons pas, Seigneur, la vie est bien, bien stupide, la vie est bien vaine, bien futile, Seigneur. Et nous qui sommes tes enfants, nous participons aussi à cette futilité dans le sens physique, dans le sens de cette vie ici-bas. Mais nous savons, Seigneur, qu'il y a l'anticipation d'un monde à venir, d'un monde de récompense et de punition, d'un monde qui sera habité par ta lumière, Seigneur. Aide-nous à ne jamais l'oublier, aide-nous à savoir parler aux gens qui n'ont que ces visions si, si terribles, l'humanisme, le fatalisme, l'épicurisme, le matérialisme. Seigneur, aide-nous à agréer avec eux que sans toi, que si on s'en tient à ces espoirs vains, la vie n'a aucun sens, Seigneur. Merci pour ces réflexions de l'Ecclésiaste, Seigneur. Donne-nous de savoir les comprendre, ne pas nous-mêmes être découragés, décontenancés. Merci aussi pour les bonnes choses que tu nous donnes pour vivre et apprécier la vie, Seigneur. Aide-nous à les recevoir sans partage et en sachant qu'elles viennent de toi, ces bonnes choses. Seigneur, nous te remercions pour la vie que tu nous donnes. C'est vrai que nous avons la capacité de penser, la capacité d'agir, la capacité d'influencer le monde autour de nous. Aide-nous à le faire pour le bien, pour ton évangile, Seigneur, tant qu'il est jour. Le Nouveau Testament aussi nous dit d'agir tant qu'il fait jour, que la nuit arrive et que bientôt il sera trop tard pour convaincre nos contemporains de ta réalité, pour les amener au salut. Transforme-nous, Seigneur. Fais de nous des instruments de paix éternelle. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Ne soyez pas déprimés, ça va s'améliorer d'ici une ou deux semaines.